France Culture, il est 17h. Bienvenue à tous, c'est en français dans le texte. Bonjour à tous. Tous les samedis, désormais, des classiques avec les grands textes de notre patrimoine littéraire lus dans la voix de grands comédiens. Des œuvres au programme du bac de français, de philo ou d'histoire, analysées avec le concours des professeurs de l'éducation nationale. Aujourd'hui, Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar, lu par Georges Clès. Après avoir écouté, dans une demi-heure, à vous de jouer, cette lecture sera suivie de la grande dictée de Rachid Santaki. Aujourd'hui, bien orthographier les mots endiablés de Georges Sand. Et puis vous venez de le quitter, il revient, il joue avec les lettres et les concepts, notre malicieux physicien, c'est Étienne Klein pour son anagramme.
France Culture. En français dans le texte, Olivia Gesbert.
Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. C'est en se promenant dans les jardins de la Villa Adriana, près de Rome, que l'auteur a eu un coup de cœur pour celui qui l'a fait construire, l'empereur romain Adrien avec un H. Elle décide alors d'écrire sa vie, mais la jeune écrivaine bute sur la personnalité complexe de l'homme, à la fois architecte, poète, chasseur, philosophe, homme politique et penseur helléniste. Elle baisse les bras, le projet est abandonné. 30 ans après cette première tentative, elle retombe par hasard sur ses notes et l'intuition se fait alors nécessité. On est en 1948. Elle se lance dans l'écriture du roman de l'empereur, dont elle loue la grandeur. Elle se lance aussi dans un titanesque travail de documentation. Pas moins de 136 références sont citées à la fin de l'ouvrage. Pour autant, elle se défend de rivaliser avec les historiens. La subjectivité de l'auteur et surtout celle de l'empereur est totalement assumée. Elle choisit en effet de lui donner la parole et de lui prêter sa plume. Ce sont des mémoires. Au crépuscule de sa vie, Adrien raconte sa propre histoire. Publié en 1951, Mémoire d'Adrien est unanimement salué par la critique. Pour la justesse du portrait, pour l'originalité de sa composition et surtout pour la beauté de son style. Aujourd'hui, Varius multiplex multiformis. L'empereur se souvient, sans trop de nostalgie, de cet âge de la vie. Extrait du livre 2 des Mémoires d'Adrien. On s'installe confortablement pour une dizaine de minutes dans cette lecture choisie de Georges Clès, des lectures de grands textes au doublage de films. Il est aussi la voix française de l'empereur Palpatine dans la saga Star Wars. Oui, c'est lui. Eh bien, il revient cette fois en empereur Adrien, sous la plume dans les mots de Marguerite Yourcenar. On l'écoute et on commente juste après.
En dépit des légendes qui m'entourent, j'ai assez peu aimé la jeunesse, la mienne moins que tout autre. Considérée pour elle-même, cette jeunesse tant vantée m'apparaît le plus souvent comme une époque mal dégrossie de l'existence, une période opaque et informe, fuyante et fragile. Il va sans dire que j'ai trouvé à cette règle un certain nombre d'exceptions délicieuses, et deux ou trois d'admirables, dont toi-même, Marc, auras été la plus pure. En ce qui me concerne, j'étais à peu près à 20 ans ce que je suis aujourd'hui. Mais je l'étais sans consistance. Tout en moi n'était pas mauvais, mais tout pouvait l'être. Le bon ou le meilleur étayait le pire. Je ne pense pas sans rougir à mon ignorance du monde que je croyais connaître, à mon impatience, à une espèce d'ambition frivole et d'avidité grossière. Faut-il l'avouer, au sein de la vie studieuse d'Athènes, où tous les plaisirs trouvaient place avec mesure, je regrettais, non pas Rome elle-même, mais l'atmosphère du lieu où se font et se défont continuellement les affaires du monde, le bruit de poulies et de roues de transmission de la machine du pouvoir. Le règne de Domitien s'achevait. Mon cousin, Trajan, qui s'était couvert de gloire sur les frontières du Rhin, tournait au grand homme populaire. La tribu espagnole s'implantait à Rome. Comparé à ce monde de l'action immédiate, la bien-aimée province grecque me semblait somnoler dans une poussière d'idées respirées déjà. La passivité politique des Hellènes m'apparaissait comme une forme assez basse de renonciation. Mon appétit de puissance, d'argent, qui est souvent chez nous la première forme de celle-ci, et de gloire, pour donner ce beau nom passionné à notre démangeaison d'entendre parler de nous, était indéniable. Il s'y mêlait confusément le sentiment que Rome, inférieure en tant de choses, regagnait l'avantage dans la familiarité avec les grandes affaires qu'elle exigeait de ses citoyens, du moins de ceux d'ordre sénatorial ou équestre. J'en étais arrivé au point où je sentais que la plus banale discussion au sujet de l'importation des blés d'Égypte m'en eût appris davantage sur l'État que toute la République de Platon. Déjà quelques années plus tôt, jeune Romain rompu à la discipline militaire, j'avais cru m'apercevoir que je comprenais mieux que mes professeurs les soldats de Léonidas et les athlètes de Pindare. Je quittais Athènes, sèche et blonde, pour la ville où des hommes encapuchonnés de lourdes toges luttent contre le vent de février, où le luxe et la débauche sont privés de charme, mais où les moindres décisions prises affectent le sort d'une partie du monde, et où un jeune provincial avide, mais point trop obtus, croyant d'abord n'obéir qu'à des ambitions assez grossières, devait peu à peu perdre celles-ci en les réalisant. Apprendre à se mesurer aux hommes et aux choses, à commander, et ce qui finalement est peut-être un peu moins futile, à servir. Tout n'était pas beau dans cet avènement d'une classe moyenne vertueuse qui s'établissait à la faveur d'un prochain changement de régime. L'honnêteté politique gagnait la partie à l'aide de stratagèmes assez louches. Le Sénat, en mettant peu à peu toute l'administration entre les mains de ses protégés, complétait l'encerclement de Domitien à bout de souffle. Les hommes nouveaux, auxquels me rattachaient tous mes liens de famille, n'étaient peut-être pas très différents de ceux qu'ils allaient remplacer. Ils étaient surtout moins salis par le pouvoir. Les cousins et les neveux de province s'attendaient au moins à des places subalternes. Encore leur demandait-on de les remplir avec intégrité. J'eus la mienne. Je fus nommé juge au tribunal chargé des litiges d'héritage. C'est de ce poste modeste que j'assistais aux dernières passes du duel à mort entre Domitien et Rome. L'empereur avait perdu pied dans la ville où il ne se soutenait plus qu'à coups d'exécution qui hâtaient sa fin. L'armée tout entière complotait sa mort. Je compris peu de choses à cette escrime plus fatale encore que celle de la reine. Je me contentais d'éprouver pour le tyran aux abois le mépris un peu arrogant d'un élève des philosophes. Bien conseillé par Atianus, je fis mon métier sans trop m'occuper de politique. Cette année de travail différa peu des années d'études. Le droit m'était inconnu. J'eus la chance d'avoir pour collègue au tribunal Neracius Priscus, qui consentit à m'instruire et qui est resté jusqu'au jour de sa mort mon conseiller légal et mon ami. Il appartenait à ce type d'esprit si rare qui, possédant à fond une spécialité, la voyant pour ainsi dire du dedans et d'un point de vue inaccessible aux profanes, garde cependant le sens de sa valeur relative dans l'ordre des choses, la mesure en termes humains. Plus versé qu'aucun de ses contemporains dans la routine de la loi, il n'hésitait jamais en présence d'innovations utiles. C'est grâce à lui, plus tard, que j'ai réussi à faire opérer certaines réformes. D'autres travaux s'imposèrent. J'avais conservé mon accent de province. Mon premier discours au tribunal fit éclater de rire. Je mis à profit mes fréquentations avec les acteurs par lesquels je scandalisais ma famille. Les leçons d'élocution furent pendant de longs mois la plus ardue mais la plus délicieuse de mes tâches et le mieux gardé des secrets de ma vie. La débauche même devenait une étude durant ces années difficiles. Je tâchais de me mettre au ton de la jeunesse dorée de Rome. Je n'y ai jamais complètement réussi. Par une lâcheté propre à cet âge, dont la témérité toute physique se dépense ailleurs, je n'osais qu'à demi me faire confiance à moi-même. Dans l'espoir de ressembler aux autres, j'émoussais ou j'aiguisais ma nature. On m'aimait peu. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison pour qu'on le fît. Certains traits, par exemple le goût des arts, qui passait inaperçu chez l'écolier d'Athènes et qui allait être plus ou moins généralement accepté chez l'empereur, gênait chez l'officier et le magistrat au premier stage de l'autorité. Mon hellénisme prêtait à sourire, d'autant plus que je l'étalais et le dissimulais maladroitement tour à tour. On m'appelait au Sénat l'étudiant grec. Je ne méprise pas les hommes. Si je le faisais, je n'aurais aucun droit ni aucune raison d'essayer de les gouverner. Je les sais vains, ignorants, avides, inquiets, capables de presque tout pour réussir, pour se faire valoir même à leurs propres yeux, ou tout simplement pour éviter de souffrir. Je le sais, je suis comme eux, du moins par moments, ou j'aurais pu l'être. Entre autrui et moi, les différences que j'aperçois sont trop négligeables pour compter dans l'addition finale. Je m'efforce donc que mon attitude soit aussi éloignée de la froide supériorité du philosophe que de l'arrogance du César. Les plus opaques des hommes ne sont pas sans lueur. Cet assassin joue proprement de la flûte. Ce contremaître, déchirant à coups de fouet le dos des esclaves, est peut-être un bon fils. Cet idiot partagerait avec moi son dernier morceau de pain. Et il y en a peu auxquels on ne puisse apprendre convenablement quelque chose. Notre grande erreur est d'essayer d'obtenir de chacun en particulier les vertus qu'il n'a pas, et de négliger de cultiver celles qu'il possède. J'appliquerai ici à la recherche de ces vertus fragmentaires ce que je disais plus haut, voluptueusement, de la recherche de la beauté. J'ai connu des êtres infiniment plus nobles, plus parfaits que moi, comme ton père, Antonin. J'ai fréquenté bon nombre de héros, et même quelques sages. J'ai rencontré chez la plupart des hommes peu de consistance dans le bien, mais pas davantage dans le mal. Leur méfiance, leur indifférence plus ou moins hostile, cédait presque trop vite, presque honteusement, se changeait presque trop facilement en gratitude, en respect, d'ailleurs sans doute aussi peu durable. Leur égoïsme même pouvait être tourné à des fins utiles. Je m'étonne toujours que si peu m'aient haï. Je n'ai eu que deux ou trois ennemis acharnés, dont j'étais comme toujours en partie responsable. Quelques-uns m'ont aimé. Ceux-là m'ont donné beaucoup plus que je n'avais le droit d'exiger, ni même d'espérer d'eux. Leur mort, quelquefois leur vie. Et le Dieu qu'ils portent en eux se révèle souvent lorsqu'il meurt. Il n'y a qu'un seul point sur lequel je me sens supérieur au commun des hommes. Je suis tout ensemble plus libre et plus soumis qu'ils n'osent l'être. Presque tous méconnaissent également leur juste liberté et leur vraie servitude. Ils maudissent leur fer. Ils semblent parfois s'en vanter. D'autre part, le temps s'écoule en vaine licence. Ils ne savent pas se tresser à eux-mêmes le joug le plus léger. Pour moi, j'ai cherché la liberté plus que la puissance. Et la puissance seulement parce qu'en partie elle favorisait la liberté. Ce qui m'intéressait n'était pas une philosophie de l'homme libre, tous ceux qui s'y essayent m'ennuyèrent, mais une technique. Je voulais trouver la charnière où notre volonté s'articule au destin, où la discipline seconde au lieu de la freiner la nature. Comprends bien qu'il ne s'agit pas ici de la dure volonté du stoïque dont tu t'exagères le pouvoir, ni de je ne sais quel choix ou quel refus abstrait qui insulte aux conditions de notre monde plein, continu, formé d'objets et de corps. J'ai rêvé d'un plus secret acquiescement ou d'une plus souple bonne volonté. La vie m'était un cheval dont on épouse les mouvements, mais après l'avoir de son mieux dressé. Tout, en somme, étant une décision de l'esprit, mais lente, mais insensible, et qui entraîne aussi l'adhésion du corps, je m'efforçais d'atteindre par degrés cet état de liberté ou de soumission presque pure. La gymnastique m'y servait. La dialectique ne minimisait pas. Je cherchais d'abord une simple liberté de vacances, des moments libres. Toute vie bien réglée a les siens, et qui ne sait pas les provoquer ne sait pas vivre. J'allais plus loin, j'imaginais une liberté de simultanéité, où deux actions, deux états seraient en même temps possibles. J'appris, par exemple, me modelant sur César, à dicter plusieurs textes à la fois, à parler en continuant à lire. J'inventais un mode de vie où la plus lourde tâche pourrait être accomplie parfaitement sans m'engager tout entier. En vérité, j'ai parfois osé me proposer d'éliminer jusqu'à la notion physique de fatigue. À d'autres moments, je m'exerçais à pratiquer une liberté d'alternance. Les émotions, les idées, les travaux devaient à chaque instant rester capables d'être interrompus puis repris, et la certitude de pouvoir les chasser ou les rappeler comme des esclaves leur enlevait toute chance de tyrannie et à moi tout sentiment de servitude. Je fis mieux, j'ordonnais toute une journée autour d'une idée préférée que je ne quittais plus. Tous ceux qui auraient dû m'en décourager ou m'en distraire, les projets ou les travaux d'un autre ordre, les paroles sans portée, les mille incidents du jour, prenaient appui sur elles comme des pampres sur un fût de colonne. D'autres fois, au contraire, je divisais à l'infini. Chaque pensée, chaque fait était pour moi rompu, sectionné, en un fort grand nombre de pensées ou de faits plus petits, plus aisés à bien tenir en main. Les résolutions, difficiles à prendre, s'émiettaient en une poussière de décisions minuscules, adoptées une à une, conduisant l'une à l'autre, et devenues de la sorte inévitables et faciles. Mais c'est encore à la liberté d'acquiescement, la plus ardue de toutes, que je me suis le plus rigoureusement appliquée. Je voulais l'état où j'étais. Dans mes années de dépendance, ma suggestion perdait ce qu'elle avait d'amer ou même d'indigne si j'acceptais d'y voir un exercice utile. Je choisissais ce que j'avais, m'obligeant seulement à l'avoir totalement et à le goûter le mieux possible. Les plus mornes travaux s'exécutaient sans peine pour peu qu'il me plût de m'en éprendre. Dès qu'un objet me répugnait, j'en faisais un sujet d'étude. Je me forçais adroitement à en tirer un motif de joie. En face d'une occurrence imprévue ou quasi désespérée, d'une embuscade ou d'une tempête en mer, toutes les mesures concernant les autres étant prises, je m'appliquais à faire fête au hasard et à jouir de ce qu'il m'apportait d'inattendu. Et l'embuscade ou la tempête s'intégrait sans heurts dans mes plans ou dans mes songes. Même au sein de mon pire désastre, j'ai vu le moment où l'épuisement enlevait à celui-ci une part de son horreur, où je le faisais mien en acceptant de l'accepter. Si j'ai jamais à subir la torture, et la maladie va sans doute se charger de m'y soumettre, je ne suis pas sûr d'obtenir longtemps de moi l'impassibilité d'un traséas, mais j'aurai du moins la ressource de me résigner à mes cris. Et c'est de la sorte, avec un mélange de réserve et d'audace, de soumission et de révolte soigneusement concertées, d'exigences extrêmes et de concessions prudentes que je me suis finalement accepté moi-même.
Lecture signée Georges Claes. Varius multiplex multiformis, varié, complexe, changeant. Ces trois adjectifs servent de titre à la section des mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar, dont nous venons d'écouter un extrait. Trois mots pour qualifier comme une ébauche la personnalité de l'empereur et surtout pour caractériser sa période de formation. À la fin de sa vie, l'empereur, narrateur, s'adresse d'abord à ce cher Marc dans une lettre qui déborde bientôt ce format. J'ignore à quelle conclusion ce récit m'entraînera. Je compte sur cet examen des faits pour me définir, me juger peut-être, ou tout au moins pour mieux me connaître avant de mourir, écrivait-il dans la première section, cherchant encore un sens à ses lignes, un but à son projet autobiographique. Olivier Barbaran, inspecteur général de l'éducation nationale, qui a préparé cette analyse pour vous, rappelle que l'extrait lu fait suite à l'évocation d'un séjour à Athènes du jeune Adrien, où l'adolescent, au cœur ombrageux, goûtait pour la première fois à cet air vif, à ces conversations rapides, à ces flâneries dans les longs soirs roses, écrit Marguerite Yourcenar. Mais, à côté des subtilités d'un maître sophiste à Athènes, c'est auprès d'un médecin à Rome qu'Adrien a appris à préférer les choses aux mots, à se méfier des formules, à observer plutôt qu'à juger. Préférence qui se retrouve dans le passage que vous venez d'écouter. « J'ai assez peu aimé la jeunesse, raconte-t-il, la mienne moins que tout autre. » Un préambule sans complaisance. Adrien ne se laisse aller à aucun attendrissement devant cet âge d'or de la jeunesse, ni dans la rétrospection narcissique. En dépit des légendes, et alors qu'il éprouvera une passion folle pour le jeune Antinous, que le lecteur des mémoires découvrira plus tard, aucune émotion ne trahit le jugement d'Adrien. Il pèse et sous-pèse cette période au gré d'adjectifs souvent en tension. Exemple, période opaque et informe, fuyante et fragile, écrit Marguerite Yourcenar, traversée par une espèce d'ambition frivole et d'avidité grossière. La jeunesse manque décidément à ses yeux à la fois de précision et de consistance. On est soi, mais sans l'être. On est encore une ébauche que le temps, ce grand sculpteur, selon le titre d'un essai de Marguerite Yourcenar, aura pour tâche de tailler, de polir, de polisser. L'extrait raconte ce parcours, donne l'impression d'une stabilité conquise. Et c'est de la sorte, avec un mélange de réserve et d'audace, de soumission et de révolte soigneusement concertée, que je me suis finalement acceptée moi-même, disent les dernières lignes de cet extrait des mémoires d'Adrien, signé en réalité Marguerite Yourcenar. Après la formation intellectuelle grecque, Adrien rentre à Rome, où il fera ses premiers pas dans la vie sociale et politique, où il apprendra l'éloquence. Jusque dans ses phrases, Adrien cherche l'équilibre, s'aventurant parfois dans la complexité des intrigues politiques, et la complexité aussi de sa position. « On m'aimait peu », raconte-t-il. Il n'y avait d'ailleurs aucune raison pour qu'on le fît. Adrien apprend très tôt que le monde ne peut être simplifié, ni être observé dans une position de surplomb. Les faits et les êtres sont contradictoires. Face à Rome, en plein brouillard de février, Athènes, blonde et sèche, perd cependant l'avantage. L'intelligence analytique s'y noie dans une poussière d'idées respirées, dit Adrien, et abandonne à Rome la réalité du pouvoir. Si Domitien est alors un tyran à bout de souffle, la génération qui ne tardera pas à le remplacer, la famille même d'Adrien, a pour elle l'avantage de la nouveauté. Si les audiences du jeune juge le confrontent à la bassesse humaine, il s'y initie pourtant à l'art d'écouter et à celui de traiter au plus vite ce qui n'a pas d'intérêt. Si la jeunesse est avide et trop souvent aveuglée, ce n'est pas en réfrénant ses appétits, mais aussi en s'y abandonnant qu'on la cultive. On perd les ambitions grossières en les domestiquant, mais aussi en les réalisant. Sur la nature humaine, Adrien aussi apprend vite. Des hommes, il écrit, je les sais vains, ignorants, avides, inquiets, capables de presque tout pour réussir, pour se faire valoir. On se croirait un peu chez Musset dans On ne badine pas avec l'amour. Il écrivait, souvenez-vous, tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites. Pour Adrien, cependant, l'amour romantique n'est pas une porte de sortie. C'est leur inconstance même dans le vice qui rend les hommes moins dangereux. Et ce qui vaut pour les autres vaut d'abord pour lui. Il dit, il écrit, entre autrui et moi, les différences que j'aperçois sont trop négligeables pour compter dans l'addition finale. Voilà peut-être pourquoi vous trouverez sûrement du plaisir à lire ses mémoires. Adrien adopte un point de vue qui ne simplifie jamais les réalités humaines, sociales ou politiques d'ailleurs. Ce qu'il repousse au contraire constamment, c'est l'abstrait. Cet abstrait qui insulte aux conditions de notre monde plein, continu, formé d'objets et de corps. Ce jeu de tension relève d'une physique épicurienne, vous l'entendez peut-être. Parce qu'il perçoit la complexité des choses, Adrien rejette la dure volonté du stoïque, trop géométrique, trop désincarné pour appréhender toutes ces nuances. La construction de la sagesse d'Adrien tient ainsi de l'expérience et de la technique. L'homme doit se corriger pour progresser, seul, sans l'aide des dieux du Panthéon, et sans celle de l'homme-dieu chrétien dont le retentissement demeure encore minoritaire à l'époque. Il faut dès lors verser ni dans l'arrogance de César, ni dans la froide supériorité du philosophe, écrit-il. La sagesse se construit en acte. Enfin, notez que dans l'ordre des valeurs de l'empereur, réduit par la masse, bon nombre, l'héroïsme vaut beaucoup moins que la sagesse. Je le cite, « J'ai fréquenté bon nombre de héros et même quelques sages ». Dans ce passage, les mémoires d'Adrien se rapprochent un peu de Montaigne. Pas sur le style, mais sur ce qui s'en dégage. L'essayiste prend en charge toute la complexité des choses, puis déroule le fil et en tire une ligne de conduite. Yourcenar, elle, avec son style, dit en toge, pose d'abord l'équilibre, met en ordre, avant d'entrer dans la complexité. Deux esthétiques complètement différentes qui relèvent sans doute moins des tempéraments que des genres littéraires. L'essai construit une pensée et trouve ce faisant le chemin, tandis que les mémoires reconstruisent un passé en connaissance de cause. Nous sommes au milieu du XXe siècle et Marguerite Yourcenar prête sa plume à un empereur romain en inventant la longue lettre qu'il écrirait à son successeur. Aujourd'hui, vous voilà, vous, auditeurs, et nous, lecteurs, destinataires de ces mots, où Marguerite Yourcenar Adrien nous invite à prendre la mesure d'une vie, soi-même comme un autre. Comme un autre? Ou autant qu'un autre? Nos mois sont précaires, l'harmonie réside en trois mots, varius, multiplex, multiformis, varié, complexe, changeant. Et qui mieux que l'auteur elle-même pour parler de la sagesse de son Adrien, 1971, Marguerite Yourcenar était au micro de France Culture.
En ce qui concerne Adrien, sa sagesse est essentiellement humaniste. Je veux dire par là qu'elle est une sagesse basée sur la confiance en la raison humaine, en la capacité de l'homme de concilier les contraires, sur l'action. Dès le début, l'empereur nous dit qu'il se définit par ses actes, et que bien qu'il y ait entre ses actes et lui un certain écart, c'est cependant par eux qu'il durera dans la mémoire des hommes. Et il accepte cet écart, il accepte le fait qu'au fond, telle ou telle période de sa vie, si importante qu'elle ait pu être dans l'histoire, n'est peut-être pourtant pas essentielle pour lui. Il lui arrive même de dire « Il me semble par moments peu important d'avoir été empereur ». Et pourtant, il est, et il est essentiellement empereur. Il le restera avec une espèce de fidélité de grand fonctionnaire jusqu'à la fin de ses jours. J'irai même jusqu'à dire qu'il y a dans cette espèce d'attachement à l'action, de sentiment de l'obligation envers l'action et la réflexion claire, et en même temps de détachement tranquille à l'égard de celle-ci, quelque chose qui me rappelle assez la sagesse hindoue. Par exemple, le conseil que Krishna donne dans la grande épopée hindoue aux guerriers de lutter sans espérer quoi que ce soit des fruits de son action. Adrien en arrive là assez vite. Il fait son métier d'empereur et il accepte même de n'être qu'un nom dans la série impériale et se confie aux hommes qui viendront après lui pour corriger ses œuvres, pour faire aussi bien que lui ou peut-être même plus mal, tout cela étant une partie de l'ordre des choses.
France Culture, en français dans le texte, Olivia Gesbert.
C'était les mémoires d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Merci beaucoup aux inspecteurs généraux de l'éducation nationale, Olivier Barbaran, qui a rédigé cette analyse, et Catherine Mottet, qui a pris en charge le point de grammaire à retrouver en bonus à la page de En français dans le texte sur franceculture.fr. L'émission continue tout de suite avec la dictée de Rachid Santaki. Un papier, un stylo. On se retrouve dans quelques instants. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous retrouver en vidéo sur le Facebook de France Culture.
J'ai traîné dehors, j'ai fait du mal, causé du tort. Je n'écoutais personne, si on se connaît pas, parle moins fort. Je n'ai pas fait d'efforts, j'ai pensé qu'à moi, je me pensais fort. J'ai claqué la porte, je t'aimais encore. J'ai mal dans le cœur, mais je n'en parle pas. Je suis beaucoup trop fier, donc je prends sur moi. J'ai mal dans le cœur, mais je n'en parle pas. Et je mens quand on me demande si ça va. Seul comme un rat des villes, quand tout s'effondre autour de moi. Aux solitudes, ta mélodie, je la connais sur le bout des doigts. 3 et 4. Seul comme un rat des villes, quand tout s'effondre. Solitude, ta mélodie, je la connais sur le bout des doigts. Et ça fait Naou.
now, now. Prends-moi dans tes bras, mais ne me retiens pas. Prends-moi dans tes bras, je ne reviendrai pas.
France Culture, 17h30 passé. C'était le premier opus solo du rappeur urbain Aboutal. L'album est dans les bacs, il s'appelle Keto Chic et ce titre Rat des Villes.
France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki.
Autant sous les buissons flambent de fleurs vermeilles.
Et vous voici désormais instituteur en noir et blanc dans les 400 cours. Rachid Santaki, bonjour.
Bonjour Olivia.
Après la dictée des cinéphiles, celle des auditeurs de France Culture. Tout de suite, prêt à jouer le jeu de la dictée. À nos côtés, deux invités et ES. La réalisatrice Sarah Marx, tout d'abord. Son film Cas contraire est sorti au début de l'année avec Chandor Fountek et Sandrine Bonner. Il est à voir désormais en VOD sur Canal Play. Bonjour à vous Sarah Marx.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de jouer le jeu de la dictée. Et à vos côtés, Géraldine Mosna-Savoie, elle est chroniqueuse dans les matins de France Culture. Son carnet de philo est à retrouver sur franceculture.fr. Et on va édicter les règles. Bonjour Géraldine.
Bonjour.
Attention, les règles changent. Hein. Entre les matins et le samedi 17h, il va falloir se concentrer autrement. Rachid Santaki, Maître Santaki, comment ça va se passer?
Le déroulement de la dictée va être le suivant. Je vais effectuer une première lecture pour que vous puissiez vous familiariser avec le texte, ainsi que les auditrices et les auditeurs. Ensuite, nous passerons aux choses sérieuses avec donc la lecture qui sera le temps d'écriture pour vous. Et ensuite, Olivia nous fera une troisième lecture avec quelques réponses, en donnant les explications peut-être des passages, peut-être des mots difficiles.
La dictée, Géraldine, c'est un exercice avec lequel vous vous sentez plutôt à l'aise?
Ben, je me sentais à l'aise avec la dictée il y a plus de 20 ans. Donc, je peux pas dire encore si je me sens vraiment à l'aise, mais c'était pas du tout un moment de torture pour moi. La dernière que j'ai faite, c'était en CM2, donc en 96. Et franchement, j'adorais cet exercice.
On peut bien philosopher et mal écrire?
Alors, je dirais pas ça non plus, mais disons que l'orthographe n'est pas un frein à bien philosopher, mais je suis pas sûre qu'on philosophe mieux si on écrit mal. On va dire les choses comme ça.
Et est-ce que si on met beaucoup d'images sur les mots, a priori, on les appréhende mieux et on les écrit mieux, d'après vous, Sarah Marx?
Je pense qu'on les appréhende mieux, mais moi, la dictée, c'est un traumatisme d'enfance. Donc, je me suis refamiliarisée avec la dictée, parce que j'ai un petit garçon qui est donc en CE1. Donc, pendant le confinement, j'ai fait beaucoup de dictées. Et je l'embête beaucoup avec l'orthographe, donc je suis un peu stressée et mise à l'épreuve avec cet exercice. Et en même temps, voilà, je suis auteur aussi, donc j'écris beaucoup. Mais c'est vrai que j'écris beaucoup sur mon ordinateur.
C'est-à-dire avec un correcteur
d'orthographe. Exactement.
Donc, même chose.
Et vous allez voir la première difficulté, les auditeurs de France Culture en savent déjà quelque chose. Ceux qui nous suivent depuis le début, la première difficulté de cette dictée, justement, c'est la douleur au poignet qu'il faut réussir à maîtriser. Rachid Santaki, vous avez choisi quoi comme texte aujourd'hui? Quel auteur, quel livre, quel extrait?
Une femme, pour changer. Donc George Sand, et un extrait donc de La mare au diable. En fait, c'est le début de cet ouvrage, je crois que c'était son plus grand succès. Et du coup, elle décrit une peinture.
Une écriture très imagée, une écriture très endiablée. George Sand, aujourd'hui. Grande respiration, première lecture.
Le soleil se couche derrière la colline. C'est la fin d'une rude journée de travail. Le paysan est vieux, trapu, couvert de haillons. L'attelage de 4 chevaux qu'il pousse en avant est maigre, exténué, fin de la dictée pour les écoliers. Le soc s'enfonce dans un fond raboteux et rebelle. Un seul être est allègre et un gambe dans cette scène de sueur et usège. C'est un personnage fantastique, un squelette armé d'un fouet, qui court dans le sillon à côté des chevaux effrayés et les frappe, servant ainsi de valet de charrue au vieux laboureur. C'est la mort, ce spectre qu'Holbein a introduit allégoriquement dans la succession de sujets philosophiques et religieux, à la fois lugubre et bouffon, virgule, intitulé « Les simulacres de la mort, point final ». Très bonne dictée à toutes et à tous.
Déjà, il y a des mots que je ne connais pas.
C'est le but de l'exercice.
J'aime.
Voilà, nous sommes là évidemment pour nous amuser et je le précise pour nos jeunes participants. Très belle et bonne dictée à toutes et à tous.
Voilà, il avait promis Rachid Sontaki une dictée plus facile cette semaine. Je ne sais pas si le niveau a vraiment baissé d'un cran, mais...
Légèrement.
On va tous... Non, je ne trouve pas du tout. On va voir au résultat. On va tous, j'espère vous aussi, de l'autre côté du poste, maintenant se concentrer et s'appliquer et s'amuser. Rachid Sontaki.
Le soleil se couche. Le soleil se couche derrière la colline. Point. Le soleil se couche derrière la colline. Point. C'est la fin d'une rude journée de travail. Point. C'est la fin d'une rude journée de travail. Point. Le paysan est vieux, virgule. Le paysan est vieux, virgule. Trapu, virgule. Le paysan est vieux, virgule. Trapu, virgule. Couvert de haillons, point. Je répète, c'est la fin d'une rude journée de travail, point. Le paysan est vieux, virgule. Trapu, virgule. Couvert de haillons, point. L'attelage de quatre chevaux qu'il pousse en avant. L'attelage de quatre chevaux qu'il pousse en avant.
Moi, je serais même pour dire l'attelage de quatre
L'attelage de quatre chevaux qu'il pousse en avant. Et maigre, virgule, exténué, point, virgule. Je répète cette phrase pour nos écoliers. L'attelage de quatre chevaux qu'il pousse en avant est maigre, virgule, exténué, point, virgule. Fin de la dictée pour les écoliers.
La chance.
Vous n'êtes pas écolier ni écolière.
Exactement.
Effet. Est-ce que tout va bien jusqu'ici? On continue?
Le soc s'enfonce dans un fond. Le soc s'enfonce dans un fond. Raboteux et rebelle, point. Le soc s'enfonce dans un fond. Raboteux et rebelle, point. Un seul être est allègre. Un seul être est allègre. Et ingambe. Oui, Géraldine, un seul être.
J'arrive même pas à savoir si c'est un adjectif, un nom, un verbe.
On vous donnera la réponse à la fin de la dictée. Un seul être est allègre et ingambe dans cette scène. Dans cette scène de sueur et usage, point. Et usage, point. De sueur et usage, point. C'est un personnage fantastique, virgule. Un squelette armé d'un fouet, virgule. Qui court dans le sillon. À côté des chevaux. Effrayés, et les frappe, virgule.
effrayé et les frappe.
Voilà, et les frappe, je répète. Le sillon à côté des chevaux effrayé et les frappe, virgule. Servant ainsi de valet, servant ainsi de valet de charrue, servant ainsi de valet de charrue, au vieux laboureur, point. Au vieux laboureur, point. C'est la mort, virgule. C'est la mort, virgule. Ce spectre, Colben, donc je vais vous appeler le nom de ce peintre, H-O-L-B-E-I-N, ce spectre, Colben, a introduit, ce spectre, Colben a introduit allégoriquement, dans la succession de sujets philosophiques et religieux, virgule. Donc je répète, dans la succession de sujets philosophiques et religieux, virgule, à la fois lugubres et bouffons, virgule, à la fois lugubres et bouffons, virgule, intitulé les simulacres de la mort, point. Je vais vous appeler simulacre, car c'est le nom de sa peinture. S-I-M-U-L-A-C-H-R-E-S, de la mort, point. À la fois lugubres et bouffons, virgule, intitulé les simulacres, donc de la mort, point, final. Est-ce que ça va, vous voulez que je répète peut-être la dernière phrase, Olivia ?
Je ne saurais quoi vous dire, Géraldine.
Géraldine, une répétition de cette phrase.
Elle est très préoccupée. Non, non, non.
En train de descendre à chaque fois de 5 cm.
Non, ça va, c'est juste, j'essayais de comprendre la phrase. J'ai compris la phrase, mais j'essayais de savoir intitulé se rapporte-t-il à sujet. Donc pas à la mort, je pense, donc à sujet, donc je mets un S. Voilà ce que j'ai décidé.
Sarah Marx, est-ce que c'est bon pour vous ? Vous avez eu le temps de faire une rapide relecture. On va reprendre tout du début ensemble. D'accord. Rachid Santaki. C'est donc La Mare au Diable, extrait de George Sand. Le soleil se couche derrière la colline. Pas de difficulté là, si ce n'est deux ailes à colline. Point, a priori, hein, pas de difficulté. Vous m'arrêtez si jamais. C'est la fin d'une rude journée et eux de travail. Point, le paysan est vieux. Vieux, V-I-E-U-X, virgule, trapu. Trapu, vous l'avez écrit comment, Sarah Marx ?
T-R-A-P-U.
Géraldine ?
Pareil.
Pareil, c'est tout juste.
Très bien.
Mm-hmm. Couvert de haillons.
Ouais.
Géraldine ?
H-A-I-2-L-O-N-S.
Parfait.
Pareil.
Voilà, il y en a plusieurs. L'attelage de 4 chevaux, donc jamais de S à 4, qu'il pousse en avant et maigre, exténué. Alors qu'il pousse P-O-U-2-S-E, en avant et maigre, exténué, E-X-T-E. N-U-E, point virgule. Vous nous arrêtez s'il y a des difficultés à vos yeux. Le soc, alors peut-être sur cette phrase, Rachid Santaki s'arrêtait un peu sur les mots compliqués. Le soc, déjà, s'enfonce dans un fond, fond toujours avec un S, F-O-N-D-S, raboteux
aussi
et rebelle.
Alors on laisse comme ça, ici. Du coup on corrige.
Je vais réagir sur le...
Sur le fond, sur le sens de ce fond.
Donc fond, nom masculin, bien, domaine ou sol à bâtir, à ne pas confondre avec fond. La partie la plus basse de quelque chose. Petite nuance.
On corrige du coup, on entoure notre faute.
En rouge.
Ah, en rouge, Olivia, vous êtes sévère aujourd'hui.
C'est la journée du rouge. Donc. Soc, S-O-C, s'enfonce dans un fond raboteux et rebelle, rebelle comme l'héroïne de dessin animé, E-2-L-E.
Le soc,
trois fautes, moi, dans cette phrase.
Et c'était peut-être la plus périlleuse.
Sur soc.
Soc, voilà, non.
Donc, gambe et usage.
Ça arrive, ça, c'est la suite. Soc, pourquoi ça s'écrit comme ça ?
Donc, SOC, c'est un nom masculin, c'est la lame de la charrue qui tranche horizontalement la terre.
D'accord, rien à voir avec le socle, en fait. C'était pas diminutif du
socle. De socle.
Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais là, c'est pas ça. Un seul être est allègre. Alors, allègre, A, deux L.
E accent grave.
E accent grave, G-R-E. Alors moi, je peux dire quand même l'hésitation que j'ai eue, parce que je me suis dit, c'est un tableau, on est avec des paysans, on a la campagne. En fait, je me suis dit, il y a un piège. Être, c'est peut-être l'arbre.
Oui, c'est peut-être dans ma lecture, je me suis posé la question. Oui,
non,
oui.
Non, donc au début, j'ai mis un H en me disant, il y a un piège. Je sens qu'il y a un piège. Donc, je me suis rattrapée après.
Il n'y avait pas de piège.
Non, mais je me suis rattrapée.
Parce que vous ne l'imaginiez pas, allègre et un gambe.
Surtout un gambe, ce mot que je ne connais. Voilà.
Mais qui, à votre avis, viendrait d'où un gambe? Sarah Marx, Géraldine Mosna-Savoie.
Bonne question, parce que moi aussi, j'avais jamais entendu ce mot.
On pense à gambader.
C'est ce que je... Non, j'écris un peu de manière avec mon cerveau reptilien.
Oui, moi, j'arrive pas du tout à avoir de... Non, j'ai vu aucun mot auquel me rattacher avec celui-ci.
Rachid Santaki.
Donc, un gambe, I-N-G-A-M-B-E.
Ah, j'ai quand même bien écrit.
Moi aussi.
Bien. Donc, ça va, ce n'était pas un mot si difficile.
Mais qu'est-ce ?
Voilà, qui a un usage normal de ses jambes.
Exactement.
C'est un adjectif. Et usage, mais là, c'est du vieux français. Donc, exactement. On a tout à fait le droit de ne pas savoir.
Voilà.
Et usage.
J'ai cherché l'étymologie de ce mot, je ne l'ai pas trouvé. Donc, j'ai fouillé et... Je vais faire appel à Jean Pruvot, lexicologue, qui pourra m'expliquer l'histoire de ce mot.
Faites appel simplement aux auditeurs de France Culture et vous aurez des réponses. Vous pouvez nous écrire à partir du site d'En français dans le texte ou de la dictée de Rachid Santaki sur franceculture.fr. On aura, à mon avis, dans la minute, la réponse à cette question, c'est-à-dire l'origine ou l'étymologie du mot « usage » qui signifierait « usage trop usé » en vieux français.
Et qui s'écrit comme...
U-S-A-I-G-E.
Ah, faute.
Et comment vous l'aviez écrit ?
U-S-E, accent grave.
Moi aussi. Moi, J-E, parce que j'ai même fait une sorte de usage. Puis-je ? Enfin, bon, je me disais...
D'accord.
C'est un personnage fantastique, virgule, un squelette, donc S-Q-U-E-L, un seul, E-D-T-E, armé et d'un fouet, E-T, qui court dans le sillon.
S-I-2-L-O-N.
Parfait.
À côté des chevaux, effrayés, donc chevaux A-U-X, effrayés, Sarah Marx.
E-F-R-A-Y-E accent aigu S.
Super.
Parfait. Et les frappes, F-R-A-P-E, servant ainsi de valet, de charrue. Alors la charrue, c'est comme le festival Les Vieilles Charrues, à qui on rend hommage cette année, où les festivals ont été annulés. Charrue, c'est H-A-2-R-U-E, au vieux laboureur. Pas de difficulté sur cette phrase pour vous ?
Non.
C'est la mort, ce spectre Colbein a introduit allégoriquement. Bon, une allégorie.
Deux L.
Parfait. Un M. Goriquement. E-M-T. Dans la succession de ces deux S, de sujets philosophiques et religieux. Donc là, vous aviez raison, Géraldine Mosna-Savoie, les sujets pluriels, philosophiques, ça s'accorde. Donc S à sujet, S à philosophique et X à religieux. À la fois lugubre, S et bouffon.
C'est aussi les sujets.
Ouais.
S, exactement. Intitulé « Et eux, les simulacres de la mort ».
Ah, faute.
Intitulé.
Moi aussi, j'avais mis un S.
Voilà, pour l'essentiel de cette lecture, relecture, je vous rappelle quand même que l'intégralité du texte est à retrouver à la page de l'émission sur franceculture.fr, en français, dans le texte. Il y avait des questions sur le contexte peut-être aussi de ce passage que vous avez extrait de « La mare au diable » de Georges Sand, Rachid Santaki.
C'est vraiment le début de l'ouvrage. Quand je cherche mes textes, j'essaye de trouver des passages avec 3-4 mots inusités. Et donc, dès le début, vous avez un quatrain et ce passage avec ces quelques petits pièges. Mais ça a été, finalement, vous appréhendiez la dictée, Géraldine, ça.
Vous êtes à combien de fautes, en fait, l'une et l'autre ?
Moi, j'en ai 3.
Moi, j'en ai 4.
En fait, j'ai eu peur, quand il y a eu l'enchaînement à la première lecture, de « un gambe, usage ». Colbein aussi, parce que du coup, je comprenais pas Colbein, c'était un mot en un ou pas, donc d'accord. Je me disais, c'est quoi ces termes qui s'enchaînent? Et après, dès le début, ça a été, mais j'ai des haillons, je me suis dit, oula, j'ai oublié des choses, mais après, bon. Ça va à peu près, c'est plutôt de se remettre dans le contexte du texte, justement, de se dire ça s'accorde avec quoi déjà, comme en fait on n'écrit pas nous-mêmes la phrase, on se dit mais qu'est-ce qu'il y avait dans la tête de l'auteur. Exactement. À ce moment-là, de se placer, de se mettre à sa place.
Et de penser au sens de ce qu'on est en train d'écrire, hein, parce qu'en fait on est tout à fait capable de faire une dictée entière et de se dire mais au fond qu'est-ce que ça racontait.
Ouais. Bah c'est en fait, moi c'est exactement, je me suis retrouvée dans cette situation-là, à réfléchir finalement au sens. D'autant que ça fait sens, parce que souvent, même quand on est jeune, on lit sans comprendre le sens de ce qu'on lit. Et je dis toujours ça à mon fils, c'est bien de lire, mais il faut comprendre ce qu'on lit. Et là, il s'agissait de comprendre ce qu'on écrit. Donc du coup, effectivement, moi j'ai de la même manière essayé de me mettre dans la peau de l'auteur. Et j'ai eu des doutes à certains endroits, mais bizarrement, je me suis rendu compte que j'ai eu des doutes finalement sur des mots assez simples, oui, que j'utilise assez régulièrement. Et où j'avais peur de faire des fautes. Donc du coup, je me disais, il faut pas que je fasse une erreur là. Et on est en perte de confiance à certains endroits parce que voilà, on se juge aussi. Et la dictée ramène aussi finalement à ça. Et je suis assez fière de compter 4 fautes.
La dictée, finalement, souvent, ce que je remarque, c'est quand on a un doute. La dictée, dès qu'on commence à avoir des doutes, on tout s'effondre en fait, tout s'effondre, et parfois on peut avoir des doutes sur des mots qu'on utilise souvent.
Exactement.
Est-ce que vous êtes sensibles l'une et l'autre, vous, Géraldine Mostasavoie? Je rappelle que vous êtes chroniqueuse à France Culture dans les matins avec vos carnets de la philo. Vous, Sarah Marx, réalisatrice à l'orthographe, quand vous recevez un message, quand vous recevez une lettre, quand vous recevez un texte, est-ce que vous êtes sensible à ça?
Il y a des fautes plus graves que d'autres, mais je suis moins sensible en fait à l'orthographe, je pense, au fur et à mesure des années, qu'à des tournures. Par exemple, il y a vraiment des tournures qui m'insupportent au jour d'aujourd'hui. Ça, par exemple, je peux être beaucoup plus intransigeante avec des formules qu'avec des fautes où on peut se dire, maintenant, on écrit tous très rapidement, le correcteur automatique n'a pas marché. J'ai l'impression d'être plus indulgente avec ça qu'avec des tournures, insupportables. Voilà.
Vous avez le sentiment que vous avez appris en lisant, ou que vous avez plus appris sur les bancs de l'école?
Je pense que j'ai appris en lisant, en écrivant aussi. Parce que c'est un exercice, finalement, que je fais depuis de longues années.
C'est une gymnastique, en fait.
C'est une vraie gymnastique, mmh, exactement. Et pour rebondir sur l'exercice du texto, finalement, qui est devenu notre moyen, enfin, c'est finalement là où on écrit le plus. Moi, j'ai tendance, justement, les correcteurs d'orthographe font faire pas mal de fautes aussi, assez cocasses d'ailleurs par moments, et des fois des fautes assez grotesques, et j'ai tendance moi à renvoyer, je me sens jugée moi, et donc je pense que je juge du coup aussi, donc si je fais une erreur grossière, parce que le correcteur d'orthographe ne saisit pas le sens de ma phrase, j'ai tendance à renvoyer le message une fois, deux fois, trois fois, et puis des fois ça...
Vous évoquez la perte de confiance, ça remarque ça à l'instant. C'est aussi là-dessus que vous travaillez, vous, en ce moment, dans ces ateliers que vous menez en prison, à la prison de Fresnes, en région parisienne. Alors là, ce sera de la musique avec des hommes détenus, mais sur l'écriture aussi.
Exactement. Alors, moi, je fais un documentaire sur ces ateliers qui sont menés par Mouloud Mansouri, et qui, en fait, c'est des ateliers qui commencent d'abord par des ateliers d'écriture, en fait, pendant 2 mois. C'est-à-dire reprendre confiance avec les mots. Donc, il y a 2 mois de travail d'écriture. C'est pour l'enregistrement d'un album, en fait, qui va être enregistré directement à la prison de Fresnes. C'est sur 8 mois. Et effectivement, la première chose, ça a été les cahiers, le stylo, et écrire, finalement, c'est sur un atelier de rap. Et l'écriture prend tout de suite son sens, et c'est vrai que assez vite ça a ramené ces jeunes hommes qui sont au départ dans une position d'échec au moment des ateliers, vu qu'ils sont incarcérés. Tout de suite, ça dès le premier atelier, il y a eu cette envie exprimée de vouloir retourner à la bibliothèque, de reprendre des livres, et c'est vrai que ça commence par là, quoi, vraiment. Et le fait de d'un coup d'écrire une phrase, 2 phrases, 3 phrases, faire des alexandrins, de faire rimer les mots. Voilà, moi je suis sensible à ça, et tous ces hommes, finalement, on retourne tous finalement à l'enfance, hein, quand on reprend un stylo et une feuille. Et ça, c'est, je trouve que c'est quelque chose d'assez fort, et ça redonne confiance.
Oui. C'est aussi pour ça que vous l'avez inventé, hein, ce concept de la grande dictée. Vous aussi, Rachid Santaki, avec cette envie de donner une deuxième chance, que chacun se donne une deuxième chance par rapport à des blocages qu'ils ont pu avoir précédemment. Hein.
Du coup, l'exercice vraiment de la dictée, quand j'écoutais Sarah justement, je pense que l'écriture, c'est l'un des meilleurs moyens déjà pour se construire. Et effectivement, pour les personnes en difficulté ou complètement opposées à l'écriture, il y a quelque chose de viscéral et même de l'enfance, en fait, finalement. Donc, je pense que le stylo, c'est un moyen de se reconstruire. Effectivement, la dictée, c'est de s'amuser. D'ailleurs, je pense que vous avez peut-être passé un bon moment et on ne se rend pas compte qu'autour de ce genre d'exercice, on peut créer une discussion et échanger sur beaucoup de choses autour de l'écriture. Donc oui, l'exercice de la dictée, pour les auditrices et auditeurs, c'est de se retrouver, de s'amuser sans complexe. Mais en même temps, c'est un moyen de voir, ouais, de faire un point en fait, avec notre niveau d'orthographe et de s'améliorer.
Passer l'exercice de la dictée, on peut maintenant se replonger en toute tranquillité dans La Mare au Diable de George Sand. Merci d'avoir choisi ce texte pour nous aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Rachid Santaki. Merci mille fois, Géraldine Mosnas-Savoie, d'avoir prolongé votre journée, d'être venue autour de cette table pour prendre note et jouer le jeu de cette dictée. On vous retrouve dans les matins de France Culture, les matins de Guillaume Erner, dans la dernière demi-heure pour vos carnets de philo. Merci beaucoup à vous, Sarah Marx. Cas contraire, votre film, sorti au début de l'année, est à voir ou à revoir en VOD sur Canal Play. France Culture, tout de suite, c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous avec le physicien Étienne Klein. C'est son anagramme. Étienne Klein, bonjour.
Bonjour Olivia.
L'anagramme, c'est le grand chamboule-tout des lettres. On va jouer à ça avec vous chaque semaine. Aujourd'hui, votre anagramme.
Aujourd'hui, j'ai choisi le sentiment de vide. Car pendant le confinement, beaucoup de mes amis me disaient qu'ils s'ennuyaient davantage qu'à l'accoutumée. Ils me parlaient de spleen, de désœuvrement, de sentiment d'insignifiance. Le temps qui passe leur semblait stérile. Soit parce que rien n'arrivait, soit parce qu'ils n'avaient rien à faire. Soit parce qu'il ne parvenait pas à s'intéresser à ce qu'il faisait ou devait faire.
S'ennuyer, disait Sioran, c'est chiquer du temps pur. Hein.
C'est en effet vivre l'expérience d'une vacance lente et persistante. Mais cet ennui qu'on présente presque toujours comme une expérience à éviter, voire à fuir, en fait est plus étonnant, plus ambigu. Car pris du bon côté, il peut offrir la possibilité d'un contact ouvert avec son intimité. Il permet de creuser en soi-même. Il devient alors un loisir non chronométrique, pour parler comme Paul Valéry, une pause à la fois involontaire et libre, qui opère des prodiges dont aucun tumulte n'est capable. Il peut même se muer en antichambre apaisée de l'imagination, de la réflexion, de l'inspiration, c'est-à-dire propulser l'être jusqu'à des altitudes plus lucides. Bref, il arrive que l'expérience spirituelle d'un certain vide ressemble à ce qu'on pourrait appeler un alpinisme de l'âme. Est-ce que c'est étonnant? Pas vraiment. Car comme le suggère secrètement son anagramme, le sentiment de vide permet de se sentir divinement délesté.
Le sentiment de vide permet de se sentir divinement délesté. C'était l'anagramme d'Étienne Klein, à réécouter sur franceculture.fr. C'était En français dans le texte. Toutes les informations sont à retrouver dès maintenant sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Émission préparée par Catherine Denet et Sandrine Chaperon. Merci beaucoup. À la réalisation, c'était Mydia Portis-Guérin et à la technique, Julien Calvas. Samedi prochain, L'île des esclaves de Marivaux. D'ici là, je vous souhaite un très très bon week-end à tous sur France Culture et je vous dis à lundi midi pour une nouvelle grande table.